la République démocratique du Congo en route pour l'organisation d'un nouveau dialogue politique dans le pays. Le président Félix Tshisekedi a donné son accord pour ce rendez-vous vendredi dernier au chef de principale confession religieuse de la République démocratique du Congo, avec qui il a échangé ce jour-là à la présidence de la République. Parmi ces confessions religieuses, il y avait l'église catholique, l'église du Christ au Congo, la communauté islamique et l'église de réveil, et toutes représentées par leurs responsables au plus haut niveau. À l'issue de cet échange, le cardinal Fridolin Ambongo a, au nom de ses collègues, salué cette initiative du président de la République. Le prélat catholique a encouragé tous les acteurs sociopolitiques à soutenir cette démarche qui, selon lui, vise à décrisper la crise politique et sécuritaire en RDC. Un appel auquel différents camps concernés réagissent déjà. Corneille Nangaa, chef du mouvement armé AFC par exemple, a dit privilégier la restructuration des institutions de l'armée et de la justice et rejette le dialogue en question. La classe politique interne en République démocratique du Congo s'est, elle, montrée favorable à l'organisation du dialogue national. C'est ainsi que la CJ64, coalition de 6 principaux partis politiques de l'opposition, dit avoir pris acte de cet appel du président de la République pour l'organisation d'un dialogue national pour aider à régler les multiples crises du pays. Elle a décidé d'annuler ces manifestations de revendication prévues le mercredi 22 juillet, demain donc, et réclame ce dialogue avant le 15 août. Le PPRD, parti de Joseph Kabila, reconnaît l'importance d'un dialogue politique en RDC, mais parle de prudence. La société civile a réagi, elle aussi, notamment à travers l'Association africaine de défense des droits humains, qui salue le courage du chef de l'État pour cette option prise pour un dialogue inclusif. À toutes les parties impliquées dans la crise, le président de l'AZADO a recommandé de jouer un jeu clair, franc, pour trouver un compromis. Quelle lecture faire de l'accord du président Félix Tshisekedi à l'organisation d'un dialogue inclusif en RDC? C'est le thème de ce soir de nos échanges. Et pour en débattre, nous recevons Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois ancien ministre de la RDC, député national élu de l'Odja province de Sankuru, président du parti Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Lambert Mende, bonsoir.
Bonsoir, cher.
À cette table, dans les studios de Radio Okapi, nous avons Christian Mwando Nsimba. Bonsoir.
Bonsoir.
Christian Mwando Nsimba, vous êtes plusieurs fois ancien ministre aussi de la RDC, député national élu de Moba dans la province du Tanganyika, cadre du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale de la RDC. Enfin, Jean-Bédel Ioka Otangela, professeur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa, secrétaire général du bloc RDC Dynamique de la société civile, porteuse du manifeste de Kasangulu. Jean-Bédel Ioka, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Le décor ayant ici été entièrement planté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Et pour tout vous dire, nous rappelons que le président de la République a échangé vendredi dernier avec les confessions religieuses de la RDC. Et au cours de ce tête-à-tête, Félix Tshisekedi a dit à ses invités que le dialogue national inclusif sera organisé. Et dès la fin de cette audience, les confessions religieuses consultent différentes couches de la nation et la classe politique réagit à cette information. Le condensé de toute cette actualité avec vous, Benjamin Mudumbi.
Le chef de l'État congolais a annoncé sa décision au cours d'une audience accordée au chef des confessions religieuses conduit par le cardinal Fridolin Ambongo à la cité de l'Union africaine vendredi 17 juillet ici à Kinshasa, celle de la tenue d'un dialogue inclusif longtemps demandé par elle. À l'issue de cet échange, le cardinal Fridolin Ambongo a, au nom de ses collègues, salué cette initiative du président de la République. Le prélat catholique a encouragé tous les acteurs sociopolitiques à soutenir cette démarche qui, selon lui, d'aujourd'hui vise à décrisper la crise politique et sécuritaire en RDC. En réaction, le PPRD, parti de l'opposition politique, cher à Joseph Kabila, appelle plutôt à la prudence. Ferdinand Kambéré, au cadre du parti, pense par ailleurs que, cette fois-ci, le chef de l'État a compris les cris du peuple congolais à propos d'un dialogue sans tabou entre Congolais. Dès samedi 18 juillet, la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo SCC ont entamé une série de consultations avec les acteurs politiques au sujet du dialogue national inclusif lancé par le président Félix Tshisekedi. Lors de ces consultations, les chefs religieux ont échangé avec les responsables de la coalition d'opposition C64, notamment sur la marche annoncée pour le 22 juillet pour exiger la démission du président de la République. Après avoir été reçu par les confessions religieuses réunies lundi 20 juillet, la coalition Article 64-C64 a suspendu sa manifestation prévue pour ce mercredi 22 juillet à Kinshasa à la suite des appels de la CENCO et de l'SCC. Elle accorde désormais un délai au chef de l'État pour convoquer des assises nationales d'ici 15 août. La mission confiée aux leaders religieux, rappelle le pasteur Eric Senga, consiste à réconcilier le peuple, ramener tous les filles et fils du pays dans un cadre apaisé et consensuel où toutes les questions d'intérêt national seront abordées. Pendant ce temps, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'est dit opposé à toute forme d'impunité pour les auteurs des crimes. Il soutient le principe de concertation nationale, mais exige que ces cadres ne servent pas à absoudre le responsable de violations graves des droits humains.
Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois ancien ministre de la RDC, député national élu de Lodja, province du Sankuru, président du parti Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti politique membre de l'Union Sacrée de la Nation. Avant d'aller plus loin dans nos débats de ce soir, arrêtons-nous quand même un moment pour un dernier doute méthodique pour clarifier ce dont nous allons vraiment parler ce soir. Lambert Mende, nous, la presse, nous n'étions pas présents au tête-à-tête du président Tshisekedi avec ses autres, les responsables d'église, mais le cardinal qui y était a confié à nos confrères que le président a levé l'option du dialogue et à partir de ces mots, les consultations ont commencé, les réactions aussi. Alors Lambert Mende, qu'est-ce que le président Tshisekedi a vraiment dit de nouveau qui lance concrètement un processus irréversible? S'il a dit qu'il est d'accord avec le dialogue, il l'a déjà dit plusieurs fois, il semble, et même dans le cas où cette fois-ci ce serait différent d'avant, qu'est-ce qu'il a vraiment dit qui semble apparemment tant rassuré, car il reste encore, sauf erreur de notre part, beaucoup, beaucoup d'inconnus, comme la date, le lieu, la durée, le contenu exact et les autres préalables du dialogue.
La première chose à dire à cet égard, c'est que le président de la République n'a pas dit cela pour la première fois. Et je suis heureux que vous le reconnaissiez. Cela fait un bout de temps que le président martèle, il est important que les Congolais se parlent, mais à une condition, que cela se fasse dans le cadre des institutions. Je pense que c'est ça qui avait provoqué une certaine polémique lorsqu'on a eu l'impression qu'il y avait des compatriotes qui estimaient que ce dialogue pouvait être l'initiative de structures autres que celles institutionnelles, ce qui serait une insulte à notre peuple qui s'est donné des institutions. Maintenant que tout le monde a la même compréhension que c'est une initiative qui vient et qui doit être contrôlée par les institutions légitimes qui sont dans leur mandat confié par le peuple, je pense qu'il n'y a aucun problème, il n'y a plus aucune inquiétude, les Congolais doivent se retrouver ensemble. Et le président a aussi mis quand même quelques bémols. Et là, je pense qu'il rencontre le point de vue que vous avez donné du docteur Mukwege. Allô.
Nous vous écoutons, Lambert Mende.
Allô.
Oui, nous vous écoutons. Est-ce que vous nous recevez? Vous pouvez continuer à parler. Allô. Allô, Lambert Mende.
Oui, c'est bon mémoire.
Oui, allez-y.
Oui, vous avez donné une position du docteur Mukwege qui se rapproche assez de celle du président Tshisekedi. Il n'est pas question de sacrifier la justice à cette réconciliation qui ne met pas fin à l'état de droit. Nous voulons nous réconcilier pour nous donner la chance de mettre dans ce pays les fondamentaux d'un état de droit où la justice ne peut pas être considérée comme quantité négligeable. Donc je pense que la justice doit passer et ceux qui ont maille à partir avec la justice pour avoir commis des actes répréhensibles, notamment des actes de crimes de sang, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et qui ont été reconnus comme tels par les instances judiciaires de notre pays ou par la communauté internationale, doivent en répondre. Leur place n'est pas autour d'une table de négociation, parce que le sang de leurs frères qu'ils ont versé est vengeance. Voilà ce que je peux dire qui résume un peu le point de vue du président.
Alors, pour le moment, pour qu'il y ait vraiment concrètement dialogue, il reste encore des étapes, apparemment nombreuses étapes. Vous pourriez nous le rappeler tout à l'heure lorsque vous allez reprendre la parole. Une d'elles, c'est déjà que le président de la République, sauf contradiction venant d'autre part, doit prendre une ordonnance présidentielle qui doit mettre un maximum d'éléments d'identité du dialogue dans cette ordonnance présidentielle, comme le loi, comme le lieu, la date et les autres contenus. Quand pensez-vous que le président de la République pourrait prendre cette ordonnance lançant le dialogue? Et puis, ce serait quoi la finalité exacte de ce dialogue dont on parle?
Vous dire quand, je ne saurais pas le faire. Je ne suis pas dans la mallette du président pour savoir quand il sera disponible pour signer cette ordonnance, mais je sais qu'une ordonnance devra être signée. Parce que dans un pays civilisé avec des institutions, on ne peut pas organiser des choses avec le tout venant. Ce sont les institutions qui prennent les choses en main. Vous souvenez, vous étiez peut-être encore très jeune, mais dans les années 90, lorsque nous sommes venus d'exil pour organiser la conférence nationale souveraine, qui était une sorte de dialogue aussi, c'est même le président Mobutu que nous combattions, qui a signé une ordonnance, il nous a convoqués en conférence nationale, même si elle l'a mis passablement en difficulté, chose qu'il n'a pas acceptée, mais enfin, c'est lui qui avait convoqué. Donc maintenant, vous dire quand cela va se faire, je pense qu'il faut lui laisser au moins la gestion de son temps.
Alors, il s'est dit que l'objectif de ce dialogue, ce serait réunir tous les Congolais autour d'une même table pour dénoncer le Rwanda. Déjà qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi cette dénonciation, ce serait seulement la parole, ce serait des actions à planifier. Et l'opposition, à qui nous allons donner la parole tout à l'heure, répète à plusieurs reprises qu'une des revendications urgentes de sa part, ce serait déjà que le pouvoir renonce à une révision ou à un renouvellement de la Constitution comme condition fondamentale, et puis d'autres revendications que nous allons entendre ici. Et dans ce dialogue, est-ce qu'il sera question à la fois de dénoncer le Rwanda et prendre en compte notamment le rejet ou l'abandon de ce que réclame l'opposition?
Je pense que là, nous allons un peu vite en besogne. Nous entrons déjà de plein pied dans le débat. Ce que nous avons considéré comme objectif de ce dialogue, que nous souhaitons tous, et je le répète, le président a toujours dit qu'il souhaitait le dialogue, à la condition qu'il se déroule sous le contrôle des institutions. Donc, nous souhaitons tous ce dialogue. L'objectif est de construire l'unité des Congolais face à une menace existentielle. Et j'ai aimé la déclaration du cardinal Ambongo lorsqu'il a parlé de l'agression du Rwanda. Il avait eu lapsus en disant de l'Est du Rwanda, non. Quoi qu'il voulait parler de l'agression du Rwanda contre la RDC. Il est le défi le plus important auquel notre peuple se trouve confronté depuis 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons besoin de reconstituer l'unité de la nation face à cette menace existentielle. Bon, dénoncer le Rwanda, ça veut dire quoi? Tous les Congolais sont contre ce que le Rwanda fait. C'est chez nous. Même ceux qui sont dans l'opposition ne peuvent pas accepter. J'imagine que ce sont des compatriotes qui ont aussi leur propre dignité, lorsque leur pays est agressé, ça leur fait mal comme autant qu'à nous. Donc nous sommes tous opposés à cette menace, mais ce qui nous importe, c'est de construire notre unité comme le rempart contre une menace qui pèse sur nous depuis 30 ans. Il faut y mettre fin. Et l'unité nous apparaît comme l'arme de prédilection contre cette convoitise que le président Kagame n'a cessé de déployer sur notre pays. Ça, c'est en ce qui nous concerne. Nous en débattrons pendant le dialogue. Peut-être d'autres estiment qu'ils ont des choses à demander au président. On en débattra aussi pendant le dialogue. Mais dire qu'on ne peut pas aller au dialogue si le président n'a pas fait ci ou ça, vous savez, il y a une terminologie qui n'est pas appropriée lorsqu'on s'adresse à la première institution de son pays, même si on est contre son programme. J'entends parler d'ultimatum, j'entends parler de moratoire. Non, c'est le langage de gens qui ont des armes à la main et qui parlent avec ceux qui sont dans les barricades face à eux. Nous sommes Congolais, nous parlons du Congo. Arrêtons avec les ultimatums, les menaces et tout ça, et voyons comment nous aligner tous derrière une cause, la nation congolaise menacée.
Merci à vous, Lambert Mende. Nous revenons à vous tout à l'heure, le temps de redistribuer la parole à vos co-débatteurs. Christian Mwando Nsimba, vous êtes aussi plusieurs fois ancien ministre de la RDC, député national élu de Moba dans la province du Tanganyika, cadre du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens semblent surpris de voir que l'opposition n'a pas pris beaucoup de temps ou n'a pas mis une certaine résistance à dire oui, on nous propose d'échanger, nous avons notre cahier de charges, eux aussi semblent avoir leur cahier de charges, mais autant dire oui tout de suite que nous sommes favorables au dialogue et le reste, peut-être on arrivera à se mettre d'accord avant ou pendant ce dialogue. Est-ce que c'est un oui au dialogue que la CECAT ou l'opposition principale de la RDC a donné, ou bien il y a des bémols à lever autour de leur réaction?
Je pense que pour nous, la question a été très claire. Ça a été notre revendication depuis le début et ça a pris quand même suffisamment de temps. Le dialogue tel qu'il a été défini à la dernière rencontre entre le président de la République et les évêques, notamment, a répondu pratiquement à nos attentes, parce que c'est la question d'inclusivité qui était parmi les mots-clés qu'il fallait retrouver, la question du respect de la Constitution, et je crois quand vous avez lu le communiqué final, il a été dit respect des institutions et respect de la Constitution. Donc, dès lors que ce dialogue a été défini comme tel, en attendant sa mise en œuvre effective par une ordonnance présidentielle, nous avons considéré que nous pouvions donner la chance à ce dialogue-là. D'autant plus que il faut le dire et revenir là-dessus, ça n'a pas été suffisamment mentionné, que les évêques SEC et SENCO, il y a quelque temps, étaient déjà vilipendés, mis hors course. Vous avez suivi la tentative l'année dernière de mettre en place une sorte de dialogue avec le conseil spécial du président de la République, concertation, dialogue auquel nous avions refusé de participer. Donc à partir du moment où le dialogue revient dans le cadre et le schéma tracé par SEC-SENCO, nous voulons donner la chance à ce dialogue. Parce que l'objectif ultime que nous avons tous, c'est quand même de construire ou reconstruire un pays uni et qui reprend la voie du développement. Et c'est entre frères, nous sommes tous frères, en tout cas en tant que Congolais, et il n'y a pas entre nous de problème insoluble, tant que nous mettons au centre l'amour de la patrie. Donc, dialogue inclusif, nous avons considéré que nous pouvions faire l'économie d'une manifestation avec les conséquences qui auraient pu en découler. Vous avez vu ce qui s'est passé à notre dernière manifestation. Il y aurait pu y avoir mort d'homme, et ainsi de suite. Dès lors que nous sentons qu'il y a cette main tendue, nous voulons laisser une chance au dialogue, bien que nous ne restons pas naïfs. C'est pour ça que nous avons donné, non pas des ultimatums, mais nous nous sommes fixés des délais, un deadline, pour voir dans le concret comment on évolue avec la proposition qui a été faite.
Alors, Christian Mwando Nsimba, dans l'opposition actuelle, ou les principaux partis ou acteurs, il y a au moins 5 autres organisations avec votre organisation ensemble. Est-ce que la position que vous portez ce soir est la position de tout ce collectif?
Bien sûr, c'est-à-dire que vous avez suivi que le samedi, nous avons tenu une réunion de la conférence des présidents. Donc, en dehors du présidium qui est considéré, qui est composé des 5 partis phares, il y a tous les autres présidents des partis politiques qui sont membres de C64 qui ont été réunis et qui ont voté, qui ont accepté que nous puissions donner cette chance-là au dialogue en suspendant nos manifestations jusqu'au 15 août.
Alors, la terminologie qui est expliquée, hein, pour le moment, ce n'est pas le président de la République lui-même que nous avons écouté, mais de ceux que nous recevons, de ceux qui parlent en son nom, il y a la terminologie d'une assemblée, hein, d'un dialogue qui va rassembler tous les Congolais pour dénoncer les mauvaises actions du Rwanda sur notre pays comme étant le contenu de ce dialogue. Est-ce que cet énoncé-là vous dérange? Est-ce que vous vous dites ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, mais le moment venu, nous nous mettrons d'accord?
Mais je pense que bon, il y a toujours ceux qui sont extrémistes dans tous les camps, comme dans notre camp, comme dans le camp du président de la République. Je pense que nous avons fixé le cap depuis le début. Nous avons dit que non, c'est d'abord la question de la sécurité et de l'agression extérieure par le Rwanda. C'est une question fondamentale. On doit retrouver l'intégrité du territoire et réunifier notre pays et pacifier notre pays. Deuxièmement, nous devons traiter de la question de la gouvernance. Parce que parmi les éléments qui aboutissent à l'affaiblissement de notre État, parce qu'il n'est pas quand même normal qu'un État grand comme le Congo soit tout le temps battu par un petit pays comme le Rwanda. Nous avons un problème de gestion de notre pays. Nous devons examiner ces questions de gouvernance. Nous devons parler des questions, des réformes nécessaires dans notre pays pour arriver à la réunification du pays, à la consolidation du développement et également à l'organisation des élections qui sont prévues en 2028. Toutes ces questions institutionnelles, on doit voir toutes ces questions institutionnelles qui pour qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour avoir un État plus crédible et un État plus fort, et quelles sont les réformes qui doivent être entreprises. Donc, si nous nous mettons juste à nous limiter à condamner l'agression rwandaise après, nous gardons toujours un État aussi faible, avec sans réformes nécessaires ou propositions de réformes nécessaires pour nous renforcer et éviter que cela ne revienne. Donc nous n'aurons rien fait. Donc l'agenda est quand même assez vaste. Nous avançons, nous verrons au fur et à mesure. Nous aurons notre cahier des charges et nous proposerons aux médiateurs ce que nous avons en tête. Et voilà, je vous ai tracé les 3 gros axes sur lesquels nous voulons aller lors de ce dialogue.
Alors apparemment ce dialogue va se dérouler tel qu'il est en train de se présenter, hein, vraiment entre les Congolais, ce qui change un peu avec une certaine habitude où les Congolais pour se rencontrer se sont beaucoup réunis autour des personnes non congolaises ou d'institutions ou même des pays hors que de la RDC. Ça sera probablement animé ou modéré par des Congolais, on verra le moment venu qui ça sera. Vous assumez tout cela et est-ce que tout cela ne vous dérange pas pour une crédibilité, une garantie et une chose que les Congolais ont toujours revendiqué dans les dialogues précédents?
Je sais que bon, c'est une très bonne chose que ça soit entre Congolais. De toute façon, les participants ne peuvent être que Congolais, mais on ne verrait pas d'inconvénient que parmi les facilitateurs, parce que ces dialogues, vous savez, il y aura des moments où il y aura des clashs, ça ne va pas se rouler comme sur un tapis. Il y aura certainement besoin des facilitateurs extérieurs parmi les pays qui nous ont toujours accompagnés et avec lesquels nous avons des partenariats, notamment des partenariats stratégiques qui peuvent faire en sorte que les uns et les autres puissent mettre un peu d'eau dans leur vin.
Merci Christian Mwando, nous restons avec vous dans ce débat également. Jean Bédel Ioka, professeur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa, secrétaire général du bloc RDC Dynamique de la société civile porteuse du manifeste de Kasangulu. Votre réaction vis-à-vis et de cette annonce du dialogue qui pourrait commencer rapidement si tous les documents et les préalables souhaités sont là et on a l'impression que l'opposition et les principaux acteurs semblent favorables, pacifiquement, tranquillement, chose qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir dans les expériences passées. Quelle est votre réaction ?
Bien, ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que d'abord, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, à cet égard, notez qu'il s'agit là d'un tournant stratégique majeur au sein de l'espace politique congolais et de ses différents acteurs, principalement les acteurs politiques, parce que la société civile en est un également. Et pour cela, il faut noter le courage et la responsabilité des uns des autres. Le courage, surtout, et la responsabilité du chef de l'État, garant de la nation, qui, face à des exigences fondamentales, se rend compte en sa qualité du garant du bon fonctionnement et de la stabilité de la nation et donc de recourir à ce mécanisme, répondre à cet appel des uns des autres. Et d'autre part, à noter, et je pense que nous ne pouvons que nous satisfaire à nous rendre compte en entendant ou en écoutant l'honorable Mwando, l'honorable Lutundula, vous n'entendez pas un discours de friction entre deux acteurs ou deux extrêmes. Vous entendez un discours de deux citoyens qui représentent deux blocs politiques opposés certes, mais face à une évidence, celle du danger qui menace. Ce danger ne guette pas, ce danger menace la survie de notre nation depuis plus de 30 ans. Seulement, une chose est et d'applaudir le dialogue, parce qu'on n'en est pas à notre premier dialogue. Voilà. Et donc, nous, notre question, la question et notre préoccupation dans le cadre de la société civile, particulièrement du bloc RDC, c'est de s'interroger, qu'est-ce qui change ? Pourquoi est-ce que, ou sur quoi est-ce que nous nous engageons cette fois-ci pour que ce dialogue, appelé par tout le monde, ne soit pas un énième rendez-vous qui chutera par ce que nous savons toujours, la distribution du gâteau, et qui mène in fine à l'effritement, à l'effondrement du monopole de la souveraineté de l'État et donc de sa fragilisation encore et encore. Parce que, évidemment, nous avons, je suis ici autour de ce plateau avec un aîné, plusieurs fois dirigeant gouvernemental, l'honorable Mende de l'autre côté du fil, évidemment un grand notable de la République, ils ont tous été. Alors, la question c'est, nous avons été à des dialogues précédents. Qu'est-ce que ces dialogues, à quoi ces dialogues nous ont menés?
Mais Jean Bédel, puisque...
C'est à répondre à cette question que exactement. Nous déterminons oui. L'enjeu de celui-ci pour que nous espérions que celui-ci nous mènera véritablement à un changement, véritablement à cette solution au problème fondamental qui réunit tout le monde, heureusement, celui de l'intégrité de notre territoire, de l'identification d'un ennemi commun, de la mobilisation des forces, de l'ensemble des forces sociales, politiques et spirituelles.
Alors, vous avez entendu Lambert Mende, tout comme Christian Mwando, éclairer plus ou moins ce qui pourrait, hein, parce que pour le moment, on ne connaît pas encore le contenu exact, mais on en a plus ou moins l'idée. On va parler d'une seule voix pour défendre les intérêts de la RDC contre le Rwanda et les agresseurs de notre pays. On va évoquer les questions qui divisent, la gouvernance, le développement du pays. Mais vous, justement, puisque vous craignez qu'on dérape rapidement vers ce qui nous est déjà arrivé, c'est-à-dire le partage du pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour éviter, autour de ces questions apparemment principales, qu'on débouche rapidement sur un partage égal et organisé du pouvoir?
La première exigence, c'est cette responsabilité citoyenne qui incombe à tous. Et l'honorable Mwando, l'honorable Mende, ainsi que les divers camps politiques sont ici mis face à leurs responsabilités. Et cette responsabilité, c'est justement de affirmer fermement qu'il s'agit effectivement de la défense des intérêts premiers de la nation et du peuple congolais. Non pas pour revendiquer cette appropriation ou cette, pardonnez-moi, excusez-moi, il sera peut-être fort le terme, manipulation politique qui caractérise souvent les différents acteurs pour finalement arriver, je vais me répéter, à ce que l'on sait. Et c'est pour ça que dans le cadre du manifeste de Kasangulu, nous nous réjouissons que certains éléments soient évoqués par les deux intervenants préliminaires. Nous avons considéré que si véritablement ces questions essentielles qui touchent à ces véritables problèmes, et nous avons nous posé quatre piliers fondamentaux, dont bien entendu la question de la sécurité et de la paix qui implique la question notamment de la justice transitionnelle avec ces quatre piliers qui sont la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition. Donc nous allons là-bas pour discuter et redresser des questions qui peuvent remettre le pays sur le rail. Première considération. Deuxième considération, bien entendu, les questions de gouvernance qui doivent être clarifiées pour que, notamment, tout ce que nous dénonçons, notamment des questions de corruption, on ne peut pas nous en cacher, soit clairement posé sur la table et que des engagements soient clairement posés. Mais également, un troisième pilier, la question, et qui a aujourd'hui mobilisé ou jeté de l'huile au feu, ça dépend de quelle position on se retrouve, la question de la réforme constitutionnelle. Mais cette question de réforme constitutionnelle, on parle de la Constitution, mais il faut qu'on se le dise. C'est de l'article 220 dont on parle. Mais en parlant de l'article 220, on martèle, et c'est juste, il faut défendre sa Constitution, le verrou constitutionnel, mais dans ce verrou constitutionnel, on semble n'insister que sur la question du mandat et de la durée, du nombre de mandats et de la durée de ce mandat présidentiel. On n'évoque pas les six autres dimensions de ce verrou constitutionnel qui sont notamment la question essentielle des compétences des provinces et des ETD, notamment la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de comment défendre véritablement. Et c'est à ce niveau que l'on se poserait la question. Mais lorsque, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'implicites en ce sens-là depuis 2011 et même avant, on défend les mandats. Mais lorsque les compétences des provinces et des ETD ont été systématiquement, et les sont d'ailleurs, est-ce qu'on a vu la réaction des autres. Donc il faut qu'on soulève toutes ces questions pour travailler sur les acquis, mais également le quatrième pilier, c'est celui du réarmement pardon, moral et de la justice sociale. Parce que ce réarmement-là, et je chute par là, appelle à la responsabilité de l'ensemble de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable rupture, et il faut le noter, entre l'opinion et l'ensemble de la classe politique.
Jean-Bédel Yoka, vous allez continuer à nous éclairer sur cette question dans un instant. Le temps de revenir aussi sur Lambert Mende. C'est le moment aussi qui est le bienvenu pour donner la parole directement à la population. Honorable Lambert Mende, nous allons vous donner la parole pour réagir à tout ce qui s'est dit ici, mais en commençant d'abord par réagir à ce commentaire de cet auditeur, Janvier.
Depuis la province du Bas-Zoélé, Janvier Kasereka, l'accord donné par le président Félix Tshisekedi pour l'organisation des dialogues éclusifs était signal d'ouverture face aux crises que traverse la République démocratique du Congo. Cette initiative, soutenue par les confessions religieuses et plusieurs acteurs sociopolitiques, peut contribuer à renforcer la paix et la cohésion nationale. Toutefois, la réussite de ces dialogues dépendra de son caractère réellement éclusif et surtout de la mise en œuvre effective des résolutions qui en sortiront. Les Congolais attendent des résultats concrets en matière de sécurité, de justice et de bonne gouvernance. Quelles sont les garanties que le gouvernement mettra en place pour que les décisions ici de ces dialogues soient effectivement respectées et appliquées? Le gouvernement est-il prêt à associer toutes les forces politiques et sociales sans exclusion afin que ces dialogues aboutissent à une paix durable et à des solutions concrètes pour les Congolais?
Lambert Mende.
Je suis d'accord avec ce commentaire à une petite nuance près, dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, il faut absolument tenir compte de la nécessité d'atteindre le...
Allô, Lambert Mende, est-ce que vous êtes là?
Et particulièrement, oui, je suis là.
Allez.
J'ai particulièrement apprécié la partie de la déclaration de l'honorable Moindo lorsqu'il place la sécurité comme premier pilier de leurs préoccupations. Et bien ensuite, il a parlé de la gouvernance, je suis aussi d'accord. Ils ne sont pas une panacée pour ça, ici en République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'une gouvernance vertueuse, il y a des réformes qui doivent être faites. C'est un débat vraiment qui vient à point nommé. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'inclusivité dont parle notre compatriote du Bas-Douélé, il faut absolument faire en sorte que cette inclusivité ne vienne pas mettre sous le boisseau la nécessité de la justice et de la redevabilité. Il est important, comme le dit le docteur Mukwege, que nous puissions placer chaque acteur de ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, suite aux incursions de l'armée rwandaise depuis 1996, chacun doit être placé devant sa responsabilité. Il s'agit de personnes physiques, à notre avis, ce n'est pas des organisations, parce qu'il n'y a pas de pénalisation possible d'une organisation. La responsabilité pénale étant individuelle, il est important que chaque personne qui a dans les mains le sang des Congolais ait à en répondre et que le dialogue ne soit pas comme les autres dialogues, puisqu'on a parlé des limites des autres dialogues, une sorte de lieu où on vient pratiquement nettoyer tous ceux qui ont du sang entre les mains, une sorte de lavoir, où ils sortent blancs comme neige après avoir envoyé à trépas des millions de nos compatriotes. Ça, ce sera nous préparer à de nouvelles incursions, parce que c'est 30 ans que nous expérimentons cette façon de faire de la part de notre voisin.
Alors, honorable Lambert Mende, puisque en ce moment, RDC, parmi les choses à solutionner, il y a la problématique de l'exploitation des ressources de la RDC, mais aussi de l'occupation administrative du pays. Ce dialogue, il est présenté comme devant réunir les Congolais. Est-ce que les autres acteurs qui affaiblissent, qui attaquent, qui nuisent à la République démocratique du Congo, du côté exploitation de ses ressources et du côté occupation de ses terres de manière illégale, participeront à ce dialogue qui se déroulera en République démocratique du Congo, qui sera convoqué par le président de la République, ou bien, à côté de ce dialogue, d'autres fora ou d'autres instances vont continuer à subsister, qui sont d'autres extensions du même dialogue.
C'est précisément la ligne rouge que le président a tracée dès le jour où il a déclaré qu'il souhaitait effectivement donner forme à ce dialogue, à l'exception donc de ceux dont vous venez de parler. Leur place n'est pas autour d'une table de négociation. Nous reconnaissons que ce sont nos concitoyens. Nous reconnaissons qu'ils ont le droit de se défendre de ce dont on les accuse. Mais c'est devant un prétoire.
Mais puisque, excusez-moi de rebondir, mais puisque ces personnes apparemment semblent déjà en échange avec la République démocratique du Congo à haut niveau, à travers des structures comme négociations de Washington, Doha, Genève, etc., comment comprendre qu'au même moment, on reste quand même en échange avec eux et ils ne peuvent pas venir à ce dialogue, peut-être pour en finir une bonne fois pour toutes?
Les échanges ont pour objectif de les amener à faire amende honorable, déposer les armes, couper les cordons avec l'agresseur rwandais, et pour ceux d'entre eux, il y a ceux d'entre eux qui n'ont peut-être pas du sang dans les mains. Ce n'est pas un groupe de 10 000, 20 000 personnes, dont vous avez tous les 20 000 qui ont du sang dans les mains. Il y a sûrement deux pelés, trois tondus qui ont tué ceux-là. Ils sont déjà condamnés par la justice, on les connaît. Ils sont répertoriés sur les listes des sanctions internationales, on les connaît. Mais tout le reste, leurs groupes peuvent être représentés à condition de ne pas mettre sur la liste de ceux qui les représentent des personnes qui ont entre les mains du sang des Congolais. Merci. Voilà comment les choses devraient se faire correctement.
Merci Lambert Mende. Christian Mwando, vous allez aussi prendre la parole pour une autre fois supplémentaire, mais après avoir écouté ce commentaire de Blaise de la Tchopo.
J'appelle la partie de Kisangani Blaise de la Tchopo. Le dialogue ne doit pas être perçu comme une victoire d'un cas sur un autre, mais comme une opportunité de rechercher des solutions aux problèmes qui affectent les Congolais. Le pouvoir, l'opposition, les groupes armés et l'ensemble des forces vives doivent privilégier un langage de responsabilité et d'apaisement. Dans le contexte actuel, les priorités devraient être le rétablissement de la paix, la sécurité des populations et la cohésion nationale. Les débats susceptibles de diviser davantage, notamment sur la Constitution, gagneraient à être abordés dans un climat serein et consensuel afin que l'intérêt supérieur de la nation demeure au centre des décisions. À qui profitera réellement ce dialogue au regard des défis sécuritaires, économiques et sociaux actuels? Est-il opportun de poursuivre les débats sur la révision ou le changement de la Constitution ou faut-il concentrer les efforts aussi les priorités nationales? Quel engagement le pouvoir et l'opposition doivent-ils prendre pour adopter un discours apaisé et créer un climat de confiance propice à un dialogue sincère?
Honorable Christian Mwando.
Mais je suis parfaitement d'accord avec l'intervenant. Je pense que le dialogue, pour nous, c'est un instrument de restauration de la confiance. Hein, il faut que ce dialogue serve à renforcer l'unité nationale et la cohésion. Cependant, il faut reconnaître que, pour nous, l'AFC M23, Sauvons le Congo et les autres forces politiques et même rebelles doivent absolument être partie prenante à ce dialogue, parce que en excluant une partie de ceux qui portent notamment les armes, je crois qu'on aura difficile à régler définitivement le problème. Parce que même si certains sont traités de pantins, il faudrait qu'on les écoute, il faudrait qu'on sache pourquoi ils ont accepté de jouer tel ou tel autre rôle, parce que souvent il faut considérer également que les fautes sont partagées. Donc pour nous, l'inclusivité veut dire que tous les Congolais de tout rang doivent faire partie politique, société civile et des autres. Et de la même manière que nous considérons que cette inclusivité doit être là, nous insistons également qu'il n'est pas question de continuer avec les processus que nous avions dénoncés depuis le début. Nous avions prévenu le pouvoir en place qu'il n'était pas le moment de commencer à mettre en place des lois ou des choses qui vont nous diviser davantage, comme ce projet de loi sur le changement sur le référendum et ces projets de changement de la constitution. J'ai encore entendu que hier ou avant-hier, le secrétaire général de l'UDPS est revenu sur ça, que pour nous, il n'est pas question, nous devons. Je crois que l'intervenant qui vient de passer a dit justement que dans le cadre de l'apaisement, ce genre de débat devrait être mis de côté. Hein. De la même manière, nous avons suspendu les marches. Nous considérons que si revenir avec ces débats sur les changements de la Constitution serait une sorte de provocation. Il y a aussi un élément fondamental qui revient. Hein. J'ai suivi notre ami Yoka de la société civile qui est revenu sur la question de la finalité des dialogues qui semble être tout simplement le partage du pouvoir, des postes et tout ça. C'est le sentiment que ça donne et les gens ont parfaitement raison d'essayer de penser à cela. Mais la grande difficulté à l'issue des dialogues, ça a toujours été celle-là, la difficulté de savoir comment on met en application les accords qui ont été conclus au moment du dialogue. C'est-à-dire, les gens considèrent qu'on ne va pas aller dialoguer, on trouve des accords, on trouve des compromis, on se fixe une feuille de route et tout le monde se retire, on laisse les mêmes qui dirigeaient avant pour continuer l'application de ce qu'on s'est convenu en restant observateur. C'est toute la difficulté parce que, généralement, à l'issue du dialogue, on se convient sur les acteurs. Que vont être les acteurs pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu. C'est ce qui s'apparente généralement comme le partage du gâteau. Les gens disent, bon, c'est vrai, il y a plusieurs dialogues. Mais aujourd'hui, par exemple, à partir du moment que nous savons tous que dans cette guerre qui nous est menée, il n'y aura pas de solution militaire, il est tout à fait normal que le dialogue se fasse. Et dans un pays à rythme régulier, le dialogue doit être tenu. Et en dernière chose, je veux dire également que ne nous voilons pas la face. Hein, dire que les gens qui ont sur les mains, tout ça, la justice doit suivre son cours. Elle suivra son cours, mais elle doit se faire dans un climat de ni vainqueur ni vaincu. Parce que il faudrait pas que les uns, parce qu'ils sont en position de force, disent que les autres ne peuvent pas participer. Il faudrait que tout le monde discute, parce que AFC M23 notamment, ils sont en discussion déjà. On ne peut pas nous dire, nous, que voilà, ces gens ne peuvent pas participer au dialogue, parce que non, parce qu'ils sont déjà en discussion avec le gouvernement. Mais alors, qu'est-ce qu'ils discutent à deux? Parce que quand vous suivez les projets de protocole qu'ils ont mis en place, il y a des questions de gouvernance, il y a des questions électorales, il y a des questions d'identité, de nationalité qu'ils discutent là-bas. Qu'est-ce qu'ils discutent là-bas qu'ils ne peuvent pas discuter avec tous les autres Congolais?
Merci à vous, Christian Moindo. Jean Bédel, Yoga, pour vous aussi. Nous allons inviter Jules pour prendre la parole.
C'est Jules Maguené, coordonnateur du Forum des nationalistes depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que les dialogues nationaux et inclusifs restent une panacée pour résoudre la crise multiforme que connaît notre pays. En effet, les sorties médiatiques de toutes les parties impliquées montrent que ce dialogue n'aura pas lieu. Et s'il a lieu, c'est comme celui d'avant que M. Eberhan Benkoloké l'avait patronné, c'est-à-dire qu'il accouchera d'une souris. Le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a donné la position du chef de l'État. Seuls ceux qui condamnent l'AFC M23 et les Rwanda vont participer à ce dialogue, alors que les acteurs comme Corneille Nangaa et consorts sont concernés par ce dialogue. Nangaa, à son tour, refuse ce dialogue et évoque ses raisons propres. La C64 a ajourné ses actions à cause de cette simple promesse. Je pense que c'est un jeu de ping-pong. Rien de concret ne viendrait de ce dialogue, car les prémices sont déjà fausses.
Jean-Bédel Eyouka.
Je suis tenté de ne pas totalement partager la conclusion du compatriote. Quoique, bien entendu, il met en exergue, et à juste titre, la mauvaise foi qui peut s'afficher des acteurs. Et lorsque les jeux d'emblée sont faussés, on ne peut pas se leurrer du résultat que cela produit. Mais je pense que la convocation de ce dialogue, et c'est pour ça que en tout début, nous avons salué le courage, la responsabilité à la fois du chef de l'État, mais également l'ouverture des autres acteurs, pour que finalement cette question du dialogue qui paraissait comme, on va dire, le retour du Christ sur terre, finalement que l'on se rende compte de ce que cela va donner in fine. Le problème de notre point de vue, nous redisons ce que nous avons dit, n'est pas tant le dialogue qui est convoqué, ni de qui participe au dialogue. Mais c'est parce que tous disent c'est au nom du peuple. Tous disent que c'est aux fins de la stabilité des institutions de la République. L'État étant fragilisé du fait de crises multiformes. Donc, et c'est à cela que je ne partage pas tout à fait une partie de la première intervention de l'honorable Moindo, tout en rencontrant la deuxième partie, c'est que nous devons vouloir une chose et être cohérents jusqu'à sa fin. Nous sommes en démocratie. Disons que nous restons cohérents par rapport à l'ordre institutionnel qui a été mis en place.
Encore 30 secondes. Oui, puisque nous sommes en train de conclure
l'émission. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, s'engager ou considérer la possibilité ou la nécessité d'un partage éventuel de pouvoir veut dire participer avec le pouvoir en cours dans la gestion de son mandat. Mais il faut, de l'autre côté, anticiper la réaction d'eux autres. La conséquence serait la remise à on va dire à carreau de l'ordre existant, et donc nous repartirions et contre l'ordre institutionnel que nous sommes tous en train de chercher à préserver. C'est comme ça que nous disons dans le cadre du manifeste de Kasangoulou que véritablement nous devons pouvoir engager le sacrifice pour lequel nous prétendons, ou nous déclarons tous, on va dire rechercher, ça veut dire, on se bat pour le peuple, et nous allons clarifier des questions qui ne vont pas, les redresser, et prendre des engagements pour que cette fois-ci, pour que ce dialogue soit différent des autres, merci, que nous puissions en sortir avec une orientation nouvelle.
Merci, voilà. À vous.
Sinon, on aurait un nouveau gouvernement et puis finalement...
Et recommencer éternellement. Merci. Jean-Bédel Eyouka, merci. Et Christian Moindo, justement, et nous sommes en train de conclure en une minute sa préoccupation et la dernière pour l'émission, puisque ça ne sera pas facile pour le moment. Tout n'est pas encore totalement bien peaufiné et bien assemblé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que vous vous rapprochiez toujours davantage avec le côté opposé pour réussir le dialogue et éviter justement que ça s'éternise et qu'on débouche par une souris, comme on dit souvent?
Bon, je pense que si nous allons tous dans ce dialogue inclusif en nous considérant d'abord comme frères et en considérant que le Congo est notre héritage commun et que nous devons le léguer entier et prospère à nos enfants, comme nous l'ont légué nos parents, je crois que nous pouvons aller de l'avant.
Merci à vous, Christian Moindo, Lambert Mende. En quelques secondes aussi, les dialogues des Congolais ont souvent tendance à s'éterniser. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous pensez qui sera mis en place pour qu'il se réalise réellement et qu'il débouche sur quelque chose de durable dans le futur?
Pour moi, il y a un espoir à voir la façon dont les choses se sont mises en place, après toutes ces petites polémiques qui nous ont divisés ici et là, que ce soit quelque chose qui vienne des Congolais. Puisque même la Conférence nationale souveraine est le produit du discours de la Baule. C'est la France. C'est la France-Afrique. C'est Mitterrand. Et Mobutu a attrapé au vol et a décidé d'obéir pratiquement au mot d'ordre du grand chef blanc. Cette fois-ci, nous avons quelque chose, et le reste, San City, c'était l'Afrique du Sud, etc. Maintenant, nous avons quelque chose qui vient de nous-mêmes, une dynamique interne. Je n'ai pas de doute, si nous tous nous mettons le patriotisme au cœur de ce que nous sommes en train de préparer, que les choses pourraient prendre moins de temps, parce que nous avons eu le temps de souffrir dans notre chair, dans notre sang, avec une agression longue de 30 ans, parce que nous mettons tout maintenant dans un même panier, le fait que le Congo doit en finir avec ce deuil qui date depuis trop longtemps.
Merci.
Je pense que les choses iront dans le bon sens.
Merci à vous, Lambert Mende, Christian Mwando et Jean Bedel Yoka, pour votre participation à cette édition. Merci surtout à Paul Badianyama, Guimate, Benjamin Mudumbi et Chembe Eluku pour leur aide éditoriale. Donald Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre écoute. Au revoir.